Radio Kapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Début ce lundi 9 décembre à Kinshasa, des travaux des États généraux du portefeuille de l'État. Ce forum veut amener les entreprises de l'État à devenir un puissant levier de la croissance et du développement social de la RDC. Ce lundi, c'est le huitième jour des affrontements entre les FARDC et le 1-23 dans le sud du territoire de Lubero au nord Kivu. Vous aurez plus de détails dans ce journal avec notre reporter dans la région, Martial Papimukeba. Émile Abdoulou Demouzé est l'invité de ce journal. Il est l'administrateur en charge des questions politiques et administratives du territoire de Kailo au Maniema. Il va parler des conditions de vie difficiles des habitants du village Lonyoma, près de Kailo Centre. Bonjour à tous. La ville de Kinshasa accueille, dès ce lundi 9 décembre, les travaux des États généraux du portefeuille de l'État. Durant 5 jours, ce forum se propose de faire des entreprises de l'État un puissant levier de la croissance et du développement social de la RDC. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
À l'initiative du gouvernement central, ces travaux vont passer en revue tous les mots qui rongent les secteurs du portefeuille de l'État. Les participants, qui viendraient de tous les horizons, vont poser les vrais diagnostics en examinant les mots dont souffrent les entreprises publiques, dont la plupart sont devenues des canards boités. Dans une dépêche parvenue à Radio Kapi, le ministre du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Boussa Tongba, a affirmé avoir prévu 6 panels à travers lesquels des éminents professeurs, des experts nationaux, dont les mandataires et des acteurs de la société civile, vont apporter leurs contributions sur les différentes thématiques retenues. Parmi ces panels, il y a entre autres les cadres juridiques institutionnel du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques, la gouvernance et l'amélioration de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. Au sortir de ces états généraux, le ministre Boussa voudrait rendre les entreprises du portefeuille de l'État plus performantes et accroître efficacement leurs contributions au budget de l'État.
Toujours à Kinshasa, la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics sera examinée à la plénière de ce lundi à l'Assemblée nationale. Au cours de la même plénière, les députés nationaux devront examiner et adopter le rapport de la commission ad hoc sur la salubrité dans la capitale congolaise. Mise en place à l'issue d'une motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapon, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport le mercredi dernier au président de l'Assemblée nationale. Quelles en sont les grandes lignes, Michel Kifindangoy?
Conduite par le député Augustin Matata Ponyo, la commission ad hoc sur l'insalubrité à Kinshasa a focalisé son travail sur 3 axes majeurs. Il s'agit des facteurs causaux aggravants et contraignants de l'insalubrité, des constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville de Kinshasa, des actions prioritaires et objectifs stratégiques, ainsi que des recommandations des politiques d'atténuation et d'éradication. Augustin Matata Ponyo.
Ce travail a été élaboré par une équipe composée non seulement des élus de l'ensemble de la République, mais aussi ceux de la ville de Kinshasa. La population kinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question. Ils sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes des constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence.
Les détails de ce rapport seront communiqués ce lundi en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter les propositions globales de l'Assemblée face à ce fléau. Et c'est au cours de la même plénière que sera examinée la motion de défiance contre le ministre des ITPR, Alexis Guissarou.
Au nord Kivu, des violents combats opposent depuis ce matin et pour le 8e jour consécutif les FARDC aux combattants du 1-23 dans le sud du territoire de Lubero. Les affrontements se déroulent sur 4 fronts où l'armée congolaise continue de contenir l'offensive lancée il y a une semaine par le 1-23 appuyé par le Rwanda. Martial Papimukeba.
Les affrontements, c'est qu'au centre à Matembe, un point d'ancrage stratégique partagé entre les FRDC et les rebelles. D'autres combats intenses sont signalés à Kasehe, Miobwe et Kibaku, des villages toujours sous occupation du M23. Depuis une semaine, les rebelles ont lancé à partir de ces zones une offensive visant à progresser vers des centres stratégiques comme Lubero Centre. Pour contrer cette avancée, les FRDC ont installé des centres de résistance et mènent des opérations de défense mobile. Depuis dimanche, l'armée a repris le contrôle de Luofu, un village stratégique ouvrant l'accès à plusieurs axes majeurs, notamment en raison de sa proximité avec Kasehe et Matembe. Alors que les combats s'intensifient dans les sites de Lubero, les présidents congolais et rwandais sont attendus le 15 décembre prochain à Luanda. Sur place, ils participeront à un sommet tripartite entre la RDC, le Rwanda et l'Angola sous l'égide du président angolais João Lourenço. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, la situation reste tendue ce lundi dans plusieurs localités du territoire de Masisi. Il y a eu des échanges des tirs hier dimanche entre le M23 et les FRDC et groupes armés locaux sur au moins 4 fronts. Le théâtre des opérations était autour de la cité de Sake et sur l'axe Kibabikatoi, plus en profondeur dans le territoire. Bernard Anyangé.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues entre 5h du matin et 10h locales et se sont prolongées autour de 17h locales ce dimanche 8 décembre autour de Sake, en groupement camerounais en territoire de Masisi. C'est mal à panique parmi la population civile. Nos sources locales évoquent une autre tentative d'attaque simultanée des rebelles M23 sur la cité de Sake depuis les montagnes Kiouli, Rotoboko et Vunano à laquelle l'armée congolaise et ses alliés ont répondu. Cette situation a paralysé les mouvements des civils, notamment sur les axes Sake-Kiroche, Sake-Mushaki et Sake-Kimoka-Kichanga. Plusieurs obus largués par les rebelles sont tombés sur Kimoka, 2 kilomètres du centre de Sake. Sur un autre plan, les combats opposant les rebelles du M23 au groupe VDP Ouazalendo se sont poursuivis presque toute la journée hier dimanche, notamment dans le groupement Mufuni Kibabi, dans la profondeur du territoire de Masisi. C'est précisément dans les villages Bukumbirere et Miole. Les combats qui sont à plus de 6 jours sans relâche dans cette zone où le M23 a déjà occupé plusieurs villages ont fait fuir nombreux habitants en direction du secteur de Katoï et le groupement voisin de Nyamaboko Premier. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En plus bref, dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri, au moins 6 personnes ont perdu la vie le week-end dans plusieurs villages de ce territoire. Des sources sécuritaires attribuent ces cas de meurtre aux éléments de la milice Codeco. Ces derniers ont aussi blessé par balle plusieurs autres personnes et emporté des objets de valeur. 4 véhicules et 15 motos sont tombés entre les mains des bandits armés sur la route nationale numéro 3 à l'intérieur du parc national de Kahuzi-Biega hier dimanche. Les voyageurs ont été dépouillés de tous leurs biens sur cette route entre Bukavu et Bunyakiri. Le président de la société civile Force Vive de Bunyakiri, Isaya Benjamin, déplore ces pillages à répétition sur le même tronçon, notamment à Mbara Moto. Il le dit au micro de Jean Kassami.
Le dimanche 8 2024, il y a vol et pillage au niveau du parc national de Kahuzi-Biega. Il y avait 4 véhicules et aussi 15 motos dépouillées. Chaque moto porte 2 personnes, c'est-à-dire ça fait 30 personnes qui sont touchées dans nos milliers. Et nous voulons que les autorités locales, que provinciales puissent s'en occuper parce que ça fait plus de 4 fois qu'il y a des pillages dans cette route-là. Sur les mêmes milliers qu'on appelle Mbaramoto. Vraiment, la population est mal à l'aise et il y a une perte de beaucoup de biens. Et certains restent maintenant des pauvres chez eux parce qu'ils manquent les moyens, comment s'y tenir, ils sont dépouillés de tout. C'est ainsi que la situation n'est pas bonne à Bunyakiri.
Et puis, depuis la ville de Lubumbashi, notez cette alerte du groupe thématique gouvernance sécuritaire et paix du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Les cas de vindicte populaire prennent de l'ampleur dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Ce groupe thématique, qui en a dénombré 100, demande à la population d'abandonner cette pratique. D'autres détails avec Bertin Chose, son responsable. Il est au micro de Jean Gando.
Beaucoup de gens ont perdu la vie parce que la population a pris une attitude négative, préfère se faire justice. Nous avons remarqué que plusieurs bandits, quand ils sont arrêtés, la justice n'arrive pas à faire bien son travail. C'est ainsi que la population se retrouvant chaque jour dans l'insécurité, le cambriolage avec armes, parfois on laisse des morts, des viols, et la population a pris cette mesure de protection qui est la justice populaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dénombrer 134 cas, dont 111 cas de meurtre. Il y a plusieurs autres cas où la population s'élance à détruire des maisons. Nous avons la commune annexe qui est au top, suivie de la commune Kampemba. Nous voulons dire à nos autorités que nous devons nous souder les coudes pour que nous puissions, la première des choses, diminuer la criminalité et de l'autre côté, continuer à faire des sensibilisations pour que cette culture de la justice populaire ne puisse pas prendre de l'expansion. Ce n'est pas bien de se faire justice. Quand vous arrêtez quelqu'un, amenez-le auprès des instances judiciaires.
Dans la province du Sankuru, début ce lundi à Lubefu, de la distribution des outils aratoires et des semences d'arachide à plus de 8000 ménages victimes des incendies des maisons dans cette localité au mois de juin dernier. Cette opération qui se fait de porte à porte est financée par l'ambassade de l'Allemagne à RDC grâce au plaidoyer mené par l'élu de Lubefu, le député national Hippolyte Ndjadi. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 1800 ménages victimes des incendies des maisons dans cette localité du territoire de Lubefu reçoivent depuis ce lundi des outils aratoires et 35 kilos de semences d'arachide. Il s'agit des habitants de Lubefu Centre, des groupements de Benankoy, Dokoto Salé, Djalokutu et ceux des groupements de Pembe dans le secteur de Basongé. Leurs maisons ont été incendiées par un feu de brousse depuis le mois de juin dernier. Mais depuis cet incident, ces familles sinistrées n'ont reçu aucune assistance. Quelques bénéficiaires expriment leur joie.
J'ai reçu les machines, les rachis, la roue. Merci, cher honorable Hippolyte. Il faut bien nourrir les enfants. Ça va nous aider beaucoup.
Cette opération qui s'est faite de porte à porte est financée par l'ambassade de l'Allemagne en RDC et cela grâce au plaidoyer mené par l'élu de Lubefu, le député national Hippolyte Ndjadi.
Nous avons fait des études de faisabilité. Si chaque ménage arrivait à faire un hectare d'arachide, on peut espérer la production minimum d'au moins 2 tonnes d'arachide. On peut espérer entre 3 000 à 4 000 dollars et par ménage, parce qu'ils n'ont rien.
L'élu de Lubefu prévoit de mener d'autres démarches pour ces familles sinistrées qui vivent toujours sans abri. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au moins 184 personnes sont mortes ce week-end à Port-au-Prince, en Haïti, selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Lors d'une conférence de presse à Genève, ces personnes ont été tuées dans des violences orchestrées par le chef d'un puissant gang dans la capitale haïtienne, dans le quartier de Cité Soleil. Volker Turk indique que le bilan des victimes passe ainsi à 5000 personnes cette année en Haïti.
L'invité.
Notre invité s'appelle Émile Abdoulou Demouzé. Il est l'administrateur en charge des questions politiques et administratives du territoire de Kailo, au Maniema. Il nous parle des conditions de vie difficiles des habitants du village Lonioma, à 6 km de Kailo Centre. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Émile Abdoul, bonjour.
Bonjour, madame.
Nous sommes au village Lonioma. Comment vivent les habitants de cette partie de la province du Maniema?
La population de cette partie de notre entité ici vit dans une condition très déplorable, madame. Du fait que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas des hôpitaux, nous n'avons pas des écoles. Donc, en bref, cette population ici vit par la grâce de Dieu.
Vous vivez par la grâce de Dieu. Quand vous parlez des écoles, c'est que les enfants d'ici n'étudient pas? Il n'y a aucune école?
Il y a que l'unique école, encore école primaire. Et puis, avec la démographie de cette population, avec l'unique école, qu'est-ce que ça va faire? Nous n'avons pas d'école secondaire, pas moins même d'université. Là, on ne parlait même pas.
Et quand les enfants d'ici terminent leur cycle primaire, comment est-ce qu'ils font pour entamer les cycles secondaires?
Non, madame, nous avons des sérieux problèmes. Souvent, vous allez observer, l'enfant pourra commencer son école primaire convenablement, mais aussitôt décrocher son petit certificat là, il est obligé d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école secondaire. Et s'il faut quitter ici aller vers Kailo Centre, ce n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants, quand ils terminent ces cycles primaires là, ils jugent bon de se plonger dans des carrés miniers pour faire les activités de la mine.
Dans votre village ici, le projet des 145 territoires n'était pas arrivé?
Effectivement, le projet était arrivé, mais madame, nous avons un sérieux problème. Même les matériaux pour nous arriver, ça a cassé tête. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. Pour que tu quittes Kindu, tu arrives à ce niveau ici, en tout cas, ce n'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de route. La route ici, d'ailleurs, c'est une route nationale, RN31, mais comme il y a eu rupture, parce que le pont qui nous reliait avec les autres territoires, ça a été cassé depuis bien avant, bon, ce qui ne favorise pas l'interconnexion de nos entités.
C'est-à-dire, comme le gouverneur de province venait de lancer les travaux de réhabilitation de ces tronçons ici, ça sera votre salier alors?
Vraiment, madame, en tout cas, nous sommes en train de remercier cette initiative combien louable de l'autorité provinciale. Mais ce que nous demandons, c'est l'aboutissement de ces travaux. Souvent, nous avons des mauvais souvenirs. Parfois, et quand les travaux commencent comme ça, ça prend assez de temps jusqu'à tel point que la population voit que non, et les autorités viennent que nous flatter ici pendant que ce n'est pas comme ça. Nous voulons assez que ces travaux aboutissent et que l'interdépendance de nos entités puisse s'observer et que la population puisse quand même se ressentir à l'aise.
Comme vous évoquez les problèmes des routes, maintenant avec vos produits des chambres, vos produits agricoles, comment est-ce que vous faites pour les acheminer vers les centres de consommation? Est-ce que ici localement vous avez un marché?
Nous n'avons pas un marché, madame. Ce que nous produisons, c'est à notre consommation propre. Voilà pourquoi vous allez observer, nous cultivons et que si nous avons des productions, ça va terminer que pour la consommation. Parce que il n'y a pas de route pour évacuer. Vous savez, pour qu'il y ait le développement de nos entités, la première des choses, c'est l'aménagement de la route. Si nous n'avons pas de route, en tout cas, même si nous produisons des tonnes et des tonnes, comment est-ce que nous allons les évacuer? Le grand problème, c'est la route. Comme l'autorité vient de faire ça, nous sommes en train de remercier le bon Dieu.
Et côté sanitaire, est-ce que le village Lonyoma a un hôpital qui prend la population en charge correctement?
Pas tout à fait, madame. Nous avons un petit poste de santé que nous avons, qui n'a même pas des agents. Bon, nous vivons en carver, madame. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons ici. Nous avons un poste de santé là, qui n'est pas équipé, qui manque même les médicaments. C'est ainsi que nous appelons les autorités à poster leur regard ici, chez nous. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer un territoire qui n'a même pas 30 km de route en bon état. Donc, nous vivons que par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous invitons les autorités de nous venir en aide pour que nous puissions quand même espérer et avoir observé le développement, afin que l'interconnexion puisse s'observer dans notre entité.
Monsieur Émile Abdoun, merci.
Merci beaucoup, madame.
Debsi Vita était à la mise en onde de cette édition d'information de 15h sur Radio Okapi, un journal qui arrive à sa fin. Le journal était coordonné par Élisée Chikota-Chivueta. Au micro, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 16h pour le bulletin d'information.